pour moi parce que c'est toujours un peu flippant, mais on va y arriver, on va y arriver. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour... Ah, c'est gentil, merci, merci beaucoup. Pour ces chants de proclamation, de louange. Enfin, quand on chante la louange, c'est vrai qu'on proclame toujours des choses, mais là, j'ai trouvé que c'était précisément des chants de proclamation. Dieu, tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais, que ton règne vienne, c'est la proclamation. Vraiment particulièrement aujourd'hui, et je suis content parce que c'est un peu le thème de mon message, c'est la foi versus le doute, et la foi dans la proclamation et bannir le doute. Alors je remercie le Seigneur, et je crois que on a besoin d'être des hommes et des femmes de Dieu remplis de foi, et on doit bannir le doute, et on doit rejeter le doute dès qu'il arrive, dès que la petite voix de l'ennemi vient fredonner à nos oreilles des mensonges. Eh bien, on doit être rempli d'autorité et de courage pour refuser la voix de l'ennemi. Je vais commencer ce message avec un témoignage. C'est une histoire vraie, donc c'est un témoignage. C'est l'histoire d'Albert. Alors, c'est un vieux témoignage, donc il s'appelle Albert. À l'époque, il était jeune, mais c'était il y a longtemps. Et Albert, il habite dans la région marseillaise. Et c'est un très beau témoignage parce que c'est une histoire vraie. Et il est dans la banlieue marseillaise. Il est clairement dans la zone, en fait. Il zone. C'est un gars des quartiers. C'est un gars qui est en échec scolaire. C'est un gars qui fait rien de ses journées et qui se retrouve le soir avec ses copains et ils font les caves des immeubles. Ils fument du shit. Ils s'amusent comme ils peuvent. Ils jouent à des jeux d'argent. Enfin voilà, la vie un peu classique qu'on peut rencontrer dans les quartiers des grandes villes, là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas d'espérance. Et un jour, alors qu'il est avec sa bande dans une cave, il trouve un livre dans une cave. Et ils ouvrent ce livre, et ce livre, c'est la Bible. Et sur le coup, tout le monde rigole, il commence à lire des passages. Et tout le monde est mort de rire, mais qu'est-ce que ça veut dire, n'importe quoi. Et puis, le Saint-Esprit fait qu'ils ouvrent toujours la Bible sur des versets qui parlent de guérison. Ils tombent toujours sur des versets qui parlent « je te guérirai, je suis celui qui te guérit ». Guérissez les malades, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Et au bout d'un moment, passé le moment de la rigolade et des moqueries, ils se disent, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre, ce livre parle que de guérison. Enfin, c'est ce qu'ils ont vu, eux, mais ça ne parle pas que de guérison, hein, la Bible, en effet. Mais là, ils sont tombés que sur ces passages-là. Et tout d'un coup, il y a un gars de la bande qui dit, mais la sœur de Mokhtar, Sonia, je crois qu'elle s'appelait, elle est malade, on le sait tous, elle a une leucémie aiguë, elle est condamnée. C'était il y a longtemps, donc déjà les leucémies aiguës, aujourd'hui c'est difficile de les soigner. Moi je travaille sur des médicaments qui traitent ces leucémies, donc je peux vraiment en parler. Mais là c'était il y a 30 ou 40 ans, donc on peut imaginer qu'il y avait très peu d'espoir. Elle était condamnée, clairement elle était condamnée, elle était suivie à l'IPC à Marseille. C'était au tout début de l'IPC à Marseille, et cette fille-là était condamnée. Et tout d'un coup, ça m'émeut parce que c'est tellement beau. Pardon, hein, excusez-moi. Albert, donc, dit, écoutez les gars, moi j'ai envie de croire dans ces paroles, j'ai envie de croire dans ce Jésus qui guérit. Et tout le monde est sensible à ce message-là, et ils commencent à se réunir, à se rassembler, et ils commencent tout simplement à dire, Dieu, Jésus, on ne te connaît pas, mais on a envie de te faire confiance. Si tu dis vraiment que tu guéris, eh bien guéris Noria, ou enfin, je ne sais plus, peu importe. Et puis, ils vont se coucher. Le lendemain matin, Noria est totalement guérie. Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas fait l'expérience du salut. Ils avaient juste eu quoi ? Foi dans les paroles de Christ. Et je crois que dans la vie, Dieu nous demande tout juste un tout petit peu de foi. Et alors, ça a été une avalanche d'expériences. Quand ils ont vu que Noria était guérie, mais littéralement guérie, les médecins étaient subjugués, ils se sont réunis tous les soirs. Ce livre est devenu un livre très précieux pour eux. Et ils ont commencé à dévorer le livre et ils ont commencé à se convertir dans des caves. Ils n'étaient pas dans une église, il n'y avait pas de louange, il n'y avait rien, ils ne connaissaient rien, tout ça. Et ils se sont convertis les uns après les autres. Comme ça, en se réunissant le soir, juste avec la parole de Dieu, parce qu'ils ont cru dans la parole de Dieu, ils ont vu la main de Dieu agir, ils y ont cru. Et Jésus, C'est merveilleux. Excusez-moi, à chaque fois que je raconte ce témoignage, je pleure, mais c'est... j'ai vu des guérisons, on en a vu des guérisons, mais cette façon-là, comment ça s'est passé, des gens qui ne connaissaient rien à Dieu, qui ne connaissaient rien à la Bible, et qui tout d'un coup, parce que tout d'un coup, ils ont foi, ils mettent leur foi dans ce gars-là, excusez-moi, ils ont dû dire ça, on va mettre foi en toi, on va placer notre foi en toi, et ils ont vu la guérison. Et Jésus l'a dit, il vous sera fait selon votre foi. Plusieurs passages dans la parole de Dieu nous parlent de ça. La première fois qu'on le voit, c'est dans Matthieu, enfin c'est à chaque fois dans Matthieu, c'est par rapport au centurion romain, vous savez, dont le serviteur est malade. Et donc il vient à Jésus, mon serviteur est malade et tout ça. Et Jésus lui dit, il te sera fait selon ta foi. Et il rentre chez lui et le serviteur est guéri. Ensuite, Jésus le dira à certains aveugles qui étaient là, qui réclamaient la guérison de Jésus et qui sont venus à lui. Et il leur a dit, mais il vous sera fait selon votre foi. Soyez guéris. Et ils ont retrouvé la vue. Ensuite, il le dit également à la femme cananéenne, vous savez, dont l'enfant est tourmenté par le démon. Il lui dira, il te sera fait selon ta foi. Et elle rentre chez elle et la fille est, enfin non, elle rentre pas chez elle, mais la fille est complètement délivrée là, en l'espace de quelques secondes. Et en fait, il dira aussi à ses disciples, à son clan là qui le suivait partout, il vous sera fait selon votre foi. C'est pas écrit que vous sera fait selon votre théologie. Ça veut pas dire que la théologie c'est mauvais, c'est bon, mais il n'est pas écrit que vous sera fait selon votre connaissance. Mais la connaissance c'est très bien. Si on en a, c'est tant mieux. Mais il vous est pas écrit, il vous sera fait selon vos prières et vos supplications. Mais il est écrit que vous sera fait selon votre foi. Et dans l'expression il vous sera fait, il y a une notion d'action. Donc la main de Dieu agit quand on est dans la foi, quand on se place dans la foi. Et en fait, toute notre vie de chrétien est basée sur la foi, puisque le salut, c'est un salut de foi, en fait. On croit en Dieu, on croit que Jésus est venu il y a 2000 ans, mais ça, on n'a aucune preuve, nous, pour le prouver. Mais c'est juste de la foi. On a la foi dans les miracles, on vit des miracles, on les voit, et on a foi dans les miracles. On a la foi dans l'attente des promesses, dans la réalisation des promesses. Toute notre vie, en fait, chrétienne, est basée sur la foi. Et en fait, ça, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement beau. Hein, si j'en reste là, c'est idyllique, hein, c'est super. On croit en Dieu, il est tout puissant, il guérit les malades et il nous sauve. Et puis voilà. Mais malheureusement, eh bien voilà, le diable l'a très bien compris que un homme, une femme remplie de foi, eh bien, c'est un danger pour lui. C'est un danger pour son œuvre à lui, et c'est une arme redoutable pour l'œuvre de Dieu. Et donc, le diable, dès le commencement, a voulu semer dans le cœur de l'homme le doute, en fait. Et c'est terrible. On le lit Genèse 3:1. En fait, jusque-là, tout allait bien. Dieu avait créé le monde. Il avait créé l'homme et la femme. Il avait créé les animaux. Jusque-là, c'était parfait. Le plan de Dieu était parfait. Et tout d'un coup, le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, donc Genèse 3:1, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Paf, première question pour immiscer le doute dans le cœur d'Ève. C'est à partir de là que tout a vrillé finalement. Donc le diable, je pense que c'est son arme favorite, c'est le doute. C'est placer le doute dans nos cœurs. Dieu a-t-il réellement dit qu'il fallait ne pas manger de tout... Dieu a-t-il réellement dit, pardon, excusez-moi, enfin vous avez compris hein, ce que je voulais dire, mais vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, point d'interrogation. Dieu l'a-t-il réellement dit? Donc il immisce le doute dans le cœur de Ève, et après on connaît la suite. Et c'est terrible pour l'humanité, mais ce qu'il faut retenir de là, sans accuser Ève et tout ça, parce qu'on aurait tous fait pareil, mais en tout cas, c'est que le diable, son arme favorite, c'est le doute. C'est le doute parce que, on va le voir pourquoi, mais c'est, voilà. Et la Bible nous dit également dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, qu'il accuse, les élus de Dieu, jour et nuit, auprès de Dieu. Des fois, on n'imagine pas le combat spirituel, l'enjeu qu'il y a sur chacune de nos vies, sur chacune de nos têtes. Mais c'est, enfin, on est chacune, une proie de l'ennemi et en même temps un enfant du Seigneur. Donc il y a un tiraillement entre l'ennemi qui veut nous éloigner de Dieu, de la foi, et Dieu qui veut nous éloigner du doute et nous maintenir dans la foi. Et il y a un véritable enjeu sur nos têtes, et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Moi, quand je lis ce verset qui dit qu'il accuse le diable, les élus de Dieu, nuit et jour devant Dieu, c'est-à-dire que vous imaginez la scène, il se présente devant le trône de Dieu, et il dit, Olivier, aujourd'hui, il a mal parlé à son client. C'est pas un bon chrétien. Non, je plaisante, hein, mais... Mais voilà, et il accuse auprès de Dieu. Mais c'est terrible, en fait. Et il essaie de prouver à Dieu que ses enfants ne sont pas réellement dignes de son amour, dignes de sa grâce, dignes de lui. Et c'est le père du mensonge, il accuse les chrétiens et il sème le doute. Le doute, c'est terrible parce que ça entraîne la suspicion, ça entraîne le désespoir, ça entraîne la fatalité, ça entraîne... un état dépressif. Heureusement que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est Dieu. Nous, en tant que chrétiens, on sait ces choses. Mais souvent, quand le doute arrive, quand même, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est armé pour refuser ces paroles de doute, refuser l'accusation de l'ennemi ? Quand on voit... l'histoire de Job dans la parole de Dieu, c'est vraiment l'exemple comme quoi nos vies, c'est vraiment il y a un enjeu terrible sur nos vies, quoi. Job, la parole de Dieu nous dit que c'était un homme pieux, que c'était un homme intègre, et que même il y a une expression, je ne sais plus comment c'est dit, mais que c'était pas le meilleur de l'époque, mais il y a un truc comme ça qui dit que c'était le plus juste, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était apparemment, d'après les Écritures, l'homme le plus digne, on va dire, de l'époque. Et cet homme-là, en fait, il a fait l'objet d'un défi terrible, quoi, entre le diable et Dieu. Et Dieu a permis au diable d'agir, en effet, dans sa vie, à une seule condition, c'est qu'il ne touche pas à sa vie, mais il lui a permis la mort de ses enfants, la perte de tous ses biens, l'arrivée de la maladie. Et en fait, ce qu'il faut, si je dis ça, c'est, bon, vous la connaissez, l'histoire de Job, mais il y a un vrai véritable enjeu sur nos têtes, sur chacune de nos têtes. Je pense que Job, c'est un exemple de la parole de Dieu, mais quand on voit l'histoire de plein d'hommes de Dieu, ce qu'ils ont passé, ce qu'ils ont vécu, on parle de Paul souvent, il a été persécuté, jeté en prison, flagellé, moqué. On parle de Joseph, on parle de... Mais tous les hommes de Dieu sont passés. David, il s'est fait pourchasser par Saül. Enfin, tous les hommes de Dieu ont vécu des choses, des persécutions terribles. Et en fait, nous, aujourd'hui, on n'échappe pas à ça. Peut-être que les persécutions sont moins physiques, parce qu'il y a un ordre général qui fait qu'on devient... courtois, poli, j'en sais rien, qu'à une époque. Mais en tout cas, la persécution psychologique, la persécution des pensées, elle est toujours là, elle est réelle, elle est puissante. Parce que Satan, quand même, est rusé, on le sait. Et il ne faut pas tomber dans ses pièges, ça c'est sûr. Et toute notre vie, en fait, c'est simple, c'est un combat entre la foi et le doute. Et quand Paul parle d'accomplir le bon combat de la foi... Moi, je crois que c'est ça, en fait. Le bon combat de la foi, c'est pas, ça n'est pas que prier pendant des nuits entières et jeûner et prier. Il faut le faire, mais ça n'est pas que ça. C'est surtout une attitude de cœur qui nous place. Seigneur, tu règnes, je demeure en toi et je te fais confiance dans telle et telle situation. C'est une attitude, en fait, le combat de la foi. C'est dire, Seigneur, tes promesses sont là, je l'y crois, je les proclame et je reste dans la foi. Et le combat de la foi, c'est de ne pas écouter justement la petite voix de l'ennemi qui nous tracasse, qui nous écueille, qui nous fait du mal et qui dit non, mais t'es pas au niveau, non, mais t'es pas bien, non, mais ça va pas, non, mais franchement, t'es nul. Et puis, de toute façon, les réunions, elles sont nulles. Et puis, il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pas vrai, c'est juste de l'ambiance. Voilà. Au nom de Jésus, non, on refuse ces choses au nom de Jésus et on reste dans la foi. Alors, pourquoi Satan sème le doute, en fait ? Pourquoi c'est son arme préférée ? Ben, parce que, il sait très bien que, en fait, le doute, c'est un peu l'opposé de la foi. En fait, on dira que c'est plutôt l'incrédulité, vraiment l'opposé de la foi. Et l'incrédulité, c'est la forme très avancée du doute, on va dire. C'est là où il n'y a plus de... vraiment. Mais on peut associer doute à incrédulité. Et puis d'ailleurs, à ce sujet, tiens, j'y pense, le doute, il y a une forme d'hésitation, en fait. On est entre deux chaises. On croit, on ne croit pas, on ne sait pas. Et en fait, ça me fait penser à ce verset, malheureusement, pour nous. C'est pour ça qu'il faut refuser le doute qui nous dit les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et en fait, quand on est dans le doute, on est entre deux, entre l'incrédulité et la foi. Et finalement, c'est la situation là, dans laquelle Dieu nous vomira de sa bouche. Donc c'est pas terrible, et que Dieu nous remplisse de sa foi. Jésus a dit, enfin, la parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Et donc, Satan sème le doute parce qu'il connaît la puissance de la foi, en fait. Il sait que un juste, un homme de Dieu, une femme de Dieu, elle vit par la foi. Et par la foi uniquement. Si on est un peu caricatural, on peut inverser ce verset et dire, si mon juste vivra par la foi, on peut penser que Dieu voulait dire aussi, bon, c'est peut-être un peu radical, mais on peut penser que Dieu voulait dire, mon juste mourra par le doute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrémiste, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit forcément par la foi. Toute notre chrétienté est basée sur la foi. C'est vrai, on a rencontré Jésus, on y croit, par la foi. On ne l'a jamais vu physiquement, on ne l'a jamais palpé. On est d'accord. Et toute notre chrétienté, après, toutes les expériences qu'on fait, c'est par la foi. Et la Bible dit également que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est des versets qui sont durs comme ça quand même, quand on les analyse. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais rassurons-nous, on lui est agréable puisque par la foi, on est ici aujourd'hui, puisqu'on a accepté son salut par la foi. Et puis, dans Galates 5-6 aussi, car en Christ, rien n'a de valeur. En fait, les gens de Galates, de la Galatie, se disputaient au sujet de la circoncision, est-ce qu'il faut être circoncis, pas circoncis. Et puis là, Paul coupe court et dit, mais de toute façon, en Christ, rien n'a de valeur, ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seule la foi a de la valeur, la foi qui est agissante par l'amour. Et donc, une foi agissante, c'est une foi qui est guidée, qui est lidée par l'amour, en fait. Une foi qui voit des fruits, qui produit du fruit, c'est une foi qui est agissante par l'amour. Et bon, on le sait, hein, l'amour, c'est la chose la plus importante. Dieu nous le dit dans les Épîtres également, que la foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Et en fait, sans amour, on peut avoir la foi, dire « oui, j'y crois », mais finalement, ce sera une foi qui sera stérile, qui n'apportera pas d'action. Et c'est par l'amour, en fait, que notre foi est agissante. Amen. Et en fait, on a tous un peu de foi. Et il suffit, en fait, finalement, quand on regarde la parole de Dieu, d'un tout petit peu de foi pour faire des choses extraordinaires. Puisque quand Jésus disait à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit, un grain de sénévé, il paraît que c'est la plus petite des graines. Enfin, j'ai toujours entendu ça quand les prédicateurs prêchaient quand j'étais petit. Je ne suis pas allé vérifier, mais il paraît que c'est la plus petite des graines qui existe au monde. Donc c'est vraiment, le Seigneur a bien choisi l'exemple. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, il va se jeter dans la mer, le ferait. Vous diriez à ce mûrier aussi, dans Luc 17, déracine-toi et va te planter dans la mer. En fait, et en plus, l'exemple, il est complètement, quand on analyse, il est complètement absurde. À quoi ça sert d'aller déraciner un mûrier et d'aller qu'il aille se planter dans la mer? Mais ça, justement, je pense que Jésus a fait exprès pour nous montrer que, avec un tout petit peu de foi, on peut faire des choses extraordinaires qui pourraient nous paraître absurdes, mais qui de toute façon sont extraordinaires. Extraordinaires. Et quand Pierre également s'avance sur les eaux du lac et qu'il va vers Jésus, eh bien, au début, il marche sur les eaux, et puis tout d'un coup, il regarde les éléments, tout ça, puis il commence à avoir peur. Et Jésus lui dira quoi? Jésus lui dira, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ce verset-là, tout à l'heure, quand je relisais mes notes, il m'a fait un titre, homme de peu de foi. Mais ça, finalement, avec peu de foi, on fait des miracles, hein, on l'a vu dans le verset d'avant. Et c'est surtout la fin qui est, pourquoi as-tu douté? Et là encore, on revient au doute. En fait, c'est le doute qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pas la grande foi ou la petite foi. Il suffit d'avoir un minimum de foi. Un minimum de foi, mais sans douter. Être sûr de cette foi-là, être sûr de cette conviction-là. Et c'est juste le doute, en fait, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Et il y a un verset également dans Hébreux 3:12 qui dit « Un cœur incrédule, alors c'est plus qu'un cœur douteux, hein, c'est vraiment un cœur incrédule, se détourne du Dieu vivant. » Mais malheureusement, quand on commence à laisser pousser en nous le doute, petit à petit, on va aller forcément, indubitablement, vers l'incrédulité. Et malheureusement, on va se détourner du Dieu vivant. Et c'est pas du tout ce que Dieu veut pour nos vies, mais c'est ce que le diable, en effet, veut. C'est ce qu'il veut. Et il y a un verset aussi qui est terrible dans la parole de Dieu, qui est, à chaque fois que je le lis, je dis, Seigneur, c'est dur. Mais en fait, c'est dur parce qu'on raisonne avec nos esprits humains, nos raisonnements humains. Et en fait, Dieu nous dit simplement, aie confiance en moi. Et c'est tellement plus simple de pas réfléchir à nous, ce qu'on pourrait mettre en place et tout ça pour y arriver, et juste à se reposer dans les bras du Seigneur. On va le lire ensemble, ce verset, c'est Jacques, chapitre 1. Vous le connaissez, mais il est effrayant, parce que quand on le lit comme ça, on se dit, mais mince, alors comment on va faire, quoi ? Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7. Verset 5, on commence. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » C'est fort comme verset, hein. C'est fort, hein, c'est clairement dit que celui qui doute, il ne recevra, il recevra rien. Et en plus, s'il s'imagine qu'il reçoit, qu'il va recevoir, il se trompe lui-même, quoi. Il est irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Et je ne vais pas finir là-dessus, bien entendu, hein, parce que ce serait trop triste. Mais en tout cas, c'est vraiment un warning, en fait, que le doute a un pouvoir incroyable sur nos vies. Et je pense qu'on est dans une église qui, c'est peut-être pas le message approprié à l'église, parce que je trouve qu'on est dans une église de foi, vraiment. Je vois, on chante des chants de proclamation, tout ça. Mais si le Seigneur l'a mis sur mon cœur, c'est peut-être que quelqu'un, ou que, enfin, on a tous besoin d'entendre ça. Le doute, ça peut arriver à n'importe quel moment. On est tous touchés par le doute à tous les moments. Mais la question, c'est pas de douter, c'est juste de laisser le doute s'enraciner en nous. Et là, ça peut être fatal. Moi, en ce moment, je suis un exemple, je fais ma pelouse, là, en ce moment. Donc j'ai planté, ça commence à pousser, et ça y est, tac, tac, à des endroits, clac, clac, il y a des mauvaises herbes qui commencent à sortir. Et donc on pourrait les laisser, je pourrais dire, bon, je les laisse, c'est pas grave, enfin, c'est que quelques mauvaises herbes au milieu de la pelouse. Et là, samedi ou vendredi, j'ai fait le tour de mon espace, là, et je les ai enlevées une à une, en essayant de bien les déraciner, ne pas couper pour pas que ça repousse, en les déracinant. Clac, 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 et j'ai balancé au fumier. Et je sais que c'est un travail qui me poursuivra toute ma vie, parce que les mauvaises herbes, elles reviennent toujours. Mais c'est l'image que j'ai gardée en faisant ça. Je me suis dit, en fait, le doute, c'est pareil. Paf, notre terrain, il est nickel, il est propre, il y a une belle pelouse, le Seigneur a fait la place, et puis le diable arrive. Il arrive, et il nous accuse, et il nous dit, t'es pas au niveau. Il nous dit, non, ça, c'est pas bien, non, mais ça, c'est pas vrai, ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est pas la parole de Dieu. Et paf, et paf. Et paf, et on écoute, et ah ouais, peut-être. Et si on dit ah oui, peut-être, paf, on laisse la mauvaise herbe s'implanter. Et si on laisse les mauvaises herbes s'implanter, ben, 3 mois après, c'est couvert de mauvaises herbes. Couvert. Et là, le travail, il est beaucoup plus long en plus, il est beaucoup plus compliqué. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais qu'on va faire toute notre vie. Et. Alors la solution face au doute, c'est quoi ? La solution face au doute. Alors moi, j'ai envie de regarder ce qu'a fait Jésus. Quand Jésus a été jeûné dans le désert, qu'il est revenu de son jeûne, il a été tenté par le diable. Et le diable commence directement à lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il dit « Si tu es le Fils de Dieu. » Il immisce, enfin, il insinue que peut-être qu'il n'est pas le Fils de Dieu, alors qu'il sait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais il veut immiscer en lui le doute. Si tu es, comme il avait dit à Ève, es-tu sûr que Dieu a dit de ne pas manger ? Si tu es le Fils de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on retienne, frères et sœurs, et qu'on applique, en fait, parce que c'est la solution. Il a répondu, il est écrit. Et il a sorti la parole de Dieu. Il a répondu, et donc il y a eu 3 attaques, hein, vous les connaissez, il y a eu 3 attaques de Satan, et les 3 fois, il a répondu, il est écrit. Il a cité la parole de Dieu. Et il a cloué le bec à l'ennemi. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin, voilà, de répondre à l'ennemi quand la petite voix de l'ennemi vient de nous faire douter. Non, au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu, j'ai été racheté par son sang, j'ai été sauvé, j'ai été gracié.
Comme le disait Emmanuel il y a quelques semaines dans son message, on est saints, frères et sœurs. Et j'ai beaucoup aimé parce que il faut qu'on réalise ces choses. On est saints. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher, parce que notre nature pécheresse, elle est toujours là. Celui qui a dit « vous êtes saints », c'est l'apôtre Paul. Et ce même apôtre Paul a dit également « je fais le mal que je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire. » Donc ça, et qui me délivrera de ce corps de chair ? On est, tant qu'on est sur la terre, on péchera, mais c'est comme ça, parce qu'on est de nature pécheresse. Mais pour autant, on est saints. Et si on commence à dire « on est des pauvres pécheurs », tout ça, on fait le jeu de l'ennemi. Et le doute s'installe en nous. Mais si on dit, on est saint, au nom de Jésus, on est saint, eh bien, vous voyez que le péché même s'éloignera de nous, de plus en plus. En fait, si on dit, si on raisonne, je suis petit, je suis faible, je suis un pécheur, plus on dira ça, et plus on sera tenu par le péché, tenu par l'ennemi. Mais si on dit, non, je proclame, c'est vrai que j'ai mes manquements, c'est vrai que j'ai des doutes, c'est vrai que j'ai des faiblesses, mais au nom de Jésus, je suis saint, parce qu'il m'a sanctifié. Et puis, si jamais je me plante, et si je fais une erreur, il est juste et fidèle pour me pardonner. Et puis, il y a la sanctification. Et puis voilà, je me repens et je suis à nouveau saint. De toute façon, je suis toujours saint, en fait, finalement. J'ai juste à me repentir, mais je suis toujours saint au nom de Jésus. Et il faut vraiment qu'on rentre là-dedans parce que ça oriente, en fait, notre vie spirituelle, quoi. Soit on a des vies de gagnants, de vainqueurs, des vies formidables avec le Seigneur, soit on a des vies de chrétiens, on croit en Dieu, mais on va rester dans une petitesse, une pauvreté spirituelle. Pardon, mais moi, j'ai pas envie de rester dans la pauvreté spirituelle. J'ai envie de vivre la richesse spirituelle. La Bible dit que il faut résister au diable et il fuira loin de nous. Et je crois que quand le diable arrive avec ses paroles de doute, on lui résiste en face-face avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute puissante, en fait, et on le rejette avec la parole de Dieu. On cite les versets. Ouais, tu es triste en tout moment, ça va pas. Non, c'est pas vrai. J'ai un Dieu de victoire, j'ai un Dieu de joie. Et la joie du Seigneur est ma force. Non, je ne suis pas fatigué, la joie du Seigneur est ma force. C'est pas de la méthode couée, hein, frères et sœurs, c'est de la méthode biblique, tout simplement. On proclame la parole de Dieu, on la proclame, et quand on la proclame, elle devient vie en nous. Amen. Voilà, la parole de Dieu, elle est immuable, elle est intemporelle. Hein, les choses passeront, vous connaissez ce verset, mais ma parole demeure. Et c'est pour ça que face à la parole de Dieu, Satan est impuissant. C'est pour ça que face à Jésus, il a été impuissant. Quand Jésus lui a rétorqué, il est écrit. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est rétorquer, c'est bannir la crainte, c'est bannir le doute. Et c'est dire, Seigneur, tu es tout puissant, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, je suis ton enfant, je suis saint. Et je veux marcher dans la sainteté, dans la sanctification, et je veux marcher dans les promesses de victoire, d'action de Dieu. Je veux guérir les malades, je veux chasser les démons au nom de Jésus, je veux proclamer ton évangile. J'ai humainement peut-être pas la capacité, mais en Jésus qui vit en moi, j'ai la capacité de tout faire, en fait, de tout faire. Et c'est juste cette attitude de cœur qui va nous permettre d'avancer, frères et sœurs, et de faire des progrès. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et comme Albert, donc, l'a fait, en fait, sans connaître Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu, tout simplement, avec des copains, alors qu'il fumait le chichon, pardon. Il avait la parole de Dieu entre les doigts, et ils ont dit, on va te faire confiance pour la sœur de Mokhtar, pour Nora, et on va te prier, on va te demander de la guérir. Mais je sais même pas comment ils ont prié, ils n'avaient pas de code. Ils l'ont fait, ils ont vu le miracle, et ça a été le départ d'un réveil dans toute la cité. C'est exceptionnel. Enfin, c'est des histoires. Il y en a plein des histoires comme ça. Mais voilà, refusons le doute. Soyons des hommes et des femmes de foi. Et j'ai envie qu'on prie ensemble et que je sais pas s'il y a des gens qui ont reçu des paroles. Voilà, si quelqu'un a reçu des paroles également. S'il y a une parole qui a donné, donnez-la maintenant et que celui qui la reçoive avec conviction, sans que le doute vienne faire flancher la parole. Amen. Que vraiment le Seigneur nous remplisse de foi. Amen. Nous fortifie. Et si certains sont fatigués, traversent une période de doute, peut-être qu'on va prier pour eux. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui aimant, Seigneur. Tu es un Dieu aimant, Seigneur. Tu es notre papa, Seigneur. Et tu nous as tout donné, Seigneur. Et combien de fois, Seigneur, tu dois être des fois tourmenté de voir combien on, on ne se sert pas de tout ton amour finalement et on ne l'utilise pas parce qu'on n'ose pas. Seigneur, fais de nous des chrétiens, des hommes, des femmes forts, enracinés en toi, enracinés en ta parole, Seigneur. Des hommes et des femmes de foi, de conviction. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui allons gravir des montagnes énormes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Donne-nous d'oser, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de croire, Seigneur, en ta parole. Donne-nous de refuser, Seigneur, les mots de l'ennemi. Donne-nous de refuser le doute au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, et nous voulons nous confier pleinement en toi, Seigneur. Ô Jésus, bénis chacun de nous, Seigneur, et que si quelqu'un a besoin d'être fortifié dans sa foi, qu'il vienne devant et on va prier pour lui maintenant, dans le nom de Jésus. Quelqu'un a besoin d'être fortifié, qu'il vienne maintenant, on va prier, afin que le doute s'en aille, afin que les racines des interrogations s'en aillent au nom de Jésus, et que la vie de Dieu, la conviction de Dieu descende dans son cœur. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu n'as pas promis, Seigneur, que une vie facile, Seigneur. Mais, Seigneur, tant que tu es là avec nous, Seigneur, quoi que nous traversions, Seigneur, nous le traversons avec joie, Seigneur. Nous le traversons avec joie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Fais, Seigneur, fais, agis, Seigneur, dans les cœurs maintenant. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus.
Amen. Je vous invite à vous lever, les amis, et à mettre tout simplement comme un signe la main sur votre cœur. Vous savez, on le dit assez souvent ici, il y a une puissance qui se dégage quand on déclare les choses. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et c'est pour ça que l'ennemi, comme l'a si bien décrit Eric, essaye de nous parler, de nous dire des choses pour nous faire douter. Mais nous avons une puissance, la puissance de Dieu qui se dégage de notre bouche alors que nous déclarons des choses, et y compris alors que nous déclarons des choses sur nous-mêmes. Alors mettons la main maintenant sur notre cœur et on va pouvoir déclarer et vraiment chasser le doute de l'intérieur de nous. Et je vous invite à répéter après moi: Seigneur Jésus, merci pour ces paroles que j'ai entendues. Merci parce que je marche par la foi. Merci parce que c'est un don qui vient de toi. Mais Seigneur, merci parce que j'ai ma part à jouer. Et aujourd'hui, Jésus, je refuse tout doute. Pardon, Seigneur, pour les fois où j'ai laissé le doute s'installer. Et aujourd'hui, je choisis de bannir tout doute de ma vie. Je veux proclamer les paroles qui sont inscrites dans la Bible. Je suis enfant de Dieu. Rien ne me va ravira de ta main. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, les dominations, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ah Seigneur, et maintenant Seigneur, alors que nous proclamons ces choses, Seigneur, je veux briser, Seigneur, tout doute, tout esprit de doute qui aurait pu venir dans mes amis, dans moi-même, Seigneur Jésus. Doute, maintenant tu t'en vas de toutes ces personnes, tu n'as rien à faire ici. Tu es en présence ici des enfants de Dieu, de ceux qui ont choisi d'accepter le sacrifice de Jésus et qui aujourd'hui sont des enfants de lumière, qui marchent dans la lumière. Alors doute, tu t'en vas. Et je vous invite, les amis, à continuer de proclamer ça alors que vous rentrez chez vous ce soir, demain, les jours. Ne laissons pas, Seigneur, le doute s'installer. Seigneur, vraiment, dans le nom de Jésus, nous chassons tout doute de nos personnes, Seigneur. Et nous choisissons de marcher par la foi, nous choisissons de faire grossir ce muscle de la foi, de le continuer à l'alimenter jour après jour, de lire des témoignages comme le témoignage excellent qu'on a entendu aujourd'hui, de s'abreuver de la parole de Dieu, de s'abreuver de ta présence, Seigneur, par des chants, des louanges, Seigneur, de s'abreuver par tes paroles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu ce serpent. Dès la Genèse, Seigneur, tu dis que le talon de la descendance d'Ève a écrasé le serpent. Ton plan parfait était prévu dès le début, Seigneur. Nous sommes dans le camp du vainqueur, Jésus. Nous avons la victoire en toi, Seigneur Jésus. Nous avons la victoire en toi, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur.
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles.
S'il y en a qui plus particulièrement veulent recevoir la prière, s'il y a vraiment un doute particulier qui est venu dans votre vie, venez, avancez-vous devant pendant qu'on est dans la présence de Dieu. On est là pour prier pour vous, ce sera avec joie.
Ici présent devant moi, est ici présent devant moi, celui qui fait voir les aveugles, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Celui qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, celui qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles, oh, celui qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, celui qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. J'entends vraiment que le Saint-Esprit nous encourage à nous repentir. Repentir peut-être d'avoir cru des mensonges. Et comme Eric l'a dit, il est bon de revenir au trône de la grâce et de vraiment de se repentir pour notre incrédulité. Et je sentais que le Saint-Esprit ramenait à notre esprit certains souvenirs douloureux où nous avons été déçus. Peut-être que nous avons été remplis d'incompréhension sur certaines situations. Mais vraiment, c'est le temps de reprendre le bâton de la foi. De dire, Seigneur, je me repens. Même si je n'ai pas compris, même si je suis encore avec mes pourquoi, je me repens, Seigneur, d'avoir laissé ces racines d'incrédulité grandir en moi. Et je choisis la foi. C'est un choix. Tu as le choix aujourd'hui. Soit de rester avec ces incompréhensions, de rester avec ces pourquoi, ou de les remettre au Seigneur et de dire, je crois, Seigneur, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Même si je n'ai pas réponse à mes pourquoi, je choisis de te faire confiance. Pour vous encourager, les amis, moi ça fait 23 ans, je n'ai jamais eu de réponse à pourquoi ma mère est partie. Pourquoi j'ai encore ces pourquoi, mais j'ai fait ce choix de dire, Seigneur, je ne veux pas rester bloqué avec ces pourquoi, mais je choisis de te faire confiance. parce que tu es un Dieu bon, tu es le Dieu de miracles. Et je sentais vraiment que Saint-Esprit voulait nous encourager aujourd'hui à nous relever, à marcher par la foi, non par la vue, mais par la foi, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vraiment, je t'invite comme un symbole à te lever. Si cette parole te parle, si tu as envie de refaire ce choix de marcher par la foi, non par la vue, lève-toi aujourd'hui et reprends le chemin de la foi. Vraiment, refuse l'incrédulité. Repens-toi d'avoir cru ces mensonges. Et refais ce choix, dire « Seigneur, je te dis oui. Seigneur, je dis oui à la foi et non à l'incrédulité. Oui à la foi et non à cette déception vraiment qui t'a tellement fait mal, tellement hanté. Seigneur, je choisis de marcher non par la vue mais par la foi. Oui, tu es le Dieu de miracles. Oui, tu es le Dieu de l'impossible. Oui, tu es le Dieu qui guérit, qui peut tout encore aujourd'hui. Fais ce choix de marcher par la foi. Alléluia, Seigneur. Nous te disons oui, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Je dis non à l'incrédulité. Je dis non à l'incrédulité. Je dis non au doute, Seigneur. Je te dis oui. Je choisis la foi. Je choisis de croire en toi. Peu importe les circonstances, Seigneur, je te dis oui. Je dis non à l'incrédulité, je dis non au doute, je dis non à l'ennemi, je choisis de vivre par la foi, Seigneur, je te dis oui, Seigneur, je te dis oui, Seigneur, je te dis oui, oh, je te remets tout. Je te remets mes peines, je te remets mes doutes, Seigneur, prends tout. Nous irons, en ton nom nous marcherons, en ton nom nous vivrons, Seigneur, je te remets tout, à toi ma vie. À toi mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout, oh Seigneur, je te donne tout, alors je lève les mains. J'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré, oh, oh, oh. Et j'ai confiance en toi. Confiance en ton sang, confiance en ta croix, je compte sur ta grâce. Ta puissance agit en moi et me libère. Alors je lève les mains, j'élève ma voix. J'élève ton nom,
Je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en toi, confiance en ton sang, confiance en ta croix, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me rend forme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ah Seigneur, nous nous retrouvons encore là devant toi, Seigneur. Encore là devant toi, Seigneur. Un jour vaut mieux dans tes parvis que mille ailleurs, Seigneur. Un jour vaut mieux dans tes parvis que mille ailleurs. Merci, Seigneur, pour cette parole encore fraîche, nouvelle que tu nous as apportée aujourd'hui. Des choses qu'on a peut-être entendues 10 fois, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est comme si à nouveau tu nous révélais à nouveau ces secrets, Seigneur. Merci, Seigneur, que la puissance de tes paroles qui ont été dites cet après-midi puisse continuer de porter du fruit, Seigneur. Merci parce que tu fais pleuvoir la pluie de bénédiction sur chacun de nous, sur chacune de nos familles, Seigneur, afin que ces bons fruits puissent pousser, Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Jamais, Seigneur, nous ne voulons nous écarter, Seigneur, de ce chemin merveilleux que tu as pour chacun de nous. Oh Seigneur, nous choisissons de nous maintenir, Seigneur, de nous maintenir sur ton chemin, de nous maintenir dans ta grâce, de ne pas nous priver de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, Seigneur. Nous choisissons de te faire confiance, Seigneur, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour les mois à venir, Seigneur. Amen. Tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre Amen, nous, Seigneur. Mais Seigneur, ce n'est pas seul que nous voulons y marcher dedans, Seigneur. Nous voulons y aller avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, dans ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, d'être tes enfants. Quel privilège, quel honneur d'être à ton service, Jésus. À jamais, Seigneur, nous voudrons te louer, te célébrer, chanter, Seigneur, les merveilles de qui tu es, de ce que tu as fait, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Oh, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Soyez bénis, les amis. Soyez bénis. Passez une excellente semaine. N'oublions pas de prier pour...